Il est 7h42, voici l'interview de Matin Première. Bertrand, vous recevez ce matin Jean-Pierre Filieu, professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris.
Messieurs, exactement, bonjour Jean-Pierre Filieu.
Bonjour.
Et vous êtes l'auteur, votre dernier ouvrage s'appelle « Les Arabes, leur destin et le nôtre » paru aux éditions de La Découverte. Vous tentez dans cet ouvrage d'expliquer pourquoi le monde arabe est entraîné dans une spirale de la violence et vous montrez que cette histoire, c'est aussi la nôtre, elle est faite de liens incessant entre l'Europe et le monde arabe. Et d'ailleurs, vous la commencez par l'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte en 1798, où la France, dites-vous, exporte sa révolution. Pourquoi c'est votre point de départ ?
D'abord parce que mes collègues, historiens arabes, le considèrent comme le point de départ de ce qu'ils appellent la Narda, c'est-à-dire la Renaissance. Mmh. Ensuite, parce qu'on a un double phénomène qui est tout à fait fascinant, c'est que la Révolution française ne s'exporte hors d'Europe que chez les Arabes, et que quand Bonaparte arrive en Égypte, il parle aux Arabes en tant qu'Arabes, alors qu'eux-mêmes ne se considèrent encore que comme musulmans. Mmh. Et donc, on a une intervention directe de la France dans cette prise de conscience de l'identité de la nation arabe qui va traverser tout le 19e siècle et donc cette Narda Renaissance.
Ouais, cette Renaissance, on peut aussi l'appeler les Lumières arabes qui sont donc inspirées des Lumières françaises et c'est une histoire en permanence, j'ai envie de dire, contrariée, qui va rencontrer en permanence des résistances.
Effectivement, donc ces lumières, cette Narda arabe, j'en vois le prolongement jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est très frappant, alors que l'image habituelle associe autoritarisme, voire soumission au monde arabe, eh bien c'est qu'on a deux siècles de combats constants, opiniâtres, répétés, pour l'émancipation individuelle et collective. Et ce message de la Narda, qui vient donc du 19e siècle, je le retrouve dans les soubresauts actuels. Et c'est ce que j'ai voulu expliquer, une histoire partagée, mais aussi pour un destin commun, avec des assassins de la liberté qui sont les mêmes au nord et au sud de la Méditerranée.
Oui, comment est-ce qu'on peut expliquer, quand on est en plein phénomène djihadiste, en pleine spirale de la violence, que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le dernier avatar d'une histoire d'émancipation, une histoire donc de lumière. Comment est-ce qu'on peut lier les deux phénomènes ?
C'est ce qu'on appelle pudiquement la dialectique. Et en histoire, elle est au cœur des processus humains, imprévisibles, contradictoires, qui font que les sociétés avancent ou que parfois elles reculent ou que parfois elles sont plongées dans une violence inouïe, ce qui est évidemment le cas aujourd'hui dans le monde arabe. Et donc je vois dans le soulèvement démocratique qui traverse le monde arabe depuis l'hiver 2010-2011, la conclusion, l'aboutissement de cette Narda, de cette renaissance. Mais face à cela, les régimes en place, qui sont littéralement prêts à tout pour ne rien concéder, eh bien, ils ont alimenté le monstre djihadiste directement en Syrie, c'est évident avec le régime Assad, et indirectement en Égypte avec la dictature du président Sissi.
Oui, ça veut dire que en 2011, avec les printemps arabes, qui donc on peut parler d'anniversaire des 5 ans des soulèvements du printemps arabe. D'ailleurs, vous dites révolution arabe, vous dites pas printemps arabe. On aurait pu voir mourir le djihadisme à ce moment-là.
Ah, c'était très clair. D'ailleurs, celui qu'on ne connaissait pas encore dans les médias, Aboubakr el-Baghdadi, était absolument paniqué.
Donc c'est le leader de Daesh.
Le leader de Daesh, il condamnait les manifestations en Tunisie et en Égypte comme étant la pire manifestation de l'apostasie, de l'impiété, parce qu'il voyait bien que dans ce soulèvement, un, pacifique, deux, au nom des libertés individuelles et publiques, une condamnation à mort pour ce qu'est le djihadisme et son idéologie aussi totalitaire que mortifère. Mmh. Et c'est la contre-révolution qui a été d'une férocité sans précédent. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Égypte, on est à des niveaux de violence politique inconnue depuis Bonaparte. En Syrie, à des niveaux de violence inconnue depuis Tamerlan en 1400. Et bien, c'est cette contre-révolution qui a alimenté l'horreur djihadiste et qui, du coup, l'a exporté dans le reste du monde, y compris sur notre continent.
Alors, vous venez d'expliquer en quoi les Occidentaux avaient été partie liée à cette histoire du monde arabe. Est-ce que ce qui arrive depuis 2011, la contre-révolution, nous avons aussi notre part là-dedans? Est-ce que nous aurions pu éviter ça, Jean-Pierre Filieu.
Par définition, hein, l'historien ne peut pas réécrire, hein, il ne peut pas faire de l'uchronie, hein, de la fiction historique. Mais il est évident qu'en 2011, nous n'avons pas eu le minimum du minimum de l'empathie, de la solidarité, de l'élan de compréhension qui nous avait légitimement animés après la chute du mur de Berlin en 1989. Or, la chute du mur de la peur chez les Arabes est, à mon avis, un bouleversement géostratégique au moins aussi important, et en tout cas avec des retombées aussi importantes pour la sécurité de l'Europe. On n'a pas commencé à dire « Ah ben, l'Europe de l'Est, c'est pas bien parce qu'ils élisent des populistes qui ne valent au fond ni mieux ni pire que les islamistes dans le monde arabe ». On voit bien qu'on a utilisé ce terme de printemps comme une variation saisonnière, en espérant qu'au fond la parenthèse soit vite refermée. Eh bien, non seulement elle ne peut pas se refermer, mais si cette transition démocratique n'aboutit pas, et pour l'instant elle n'aboutit qu'en Tunisie, eh bien on aura horreur sur horreur sur horreur, encore plus de terrorisme, encore plus de réfugiés.
Ouais, et justement, vous pouvez pas faire du chronique, vous pouvez pas non plus faire d'utopie et prédire l'avenir, mais comment vous voyez cette contre-révolution à l'œuvre, ces dynamiques dans le monde arabe, dans votre livre, sans dévoiler tout, et on va inviter les auditeurs à aller le feuilleter, mais quand même, vous avez de l'espoir. Vous dites que la démographie du monde arabe, l'éducation de la jeunesse, selon vous, ça va déboucher vers quelque chose de meilleur.
Mais de toute façon, les régimes actuels, hein, tous plus corrompus et en banqueroute les uns que les autres, sont condamnés. On voit bien qu'ils sont obligés de mobiliser une violence inouïe et des ressources sans précédent, juste pour se maintenir à flot et sans même plus fournir la sécurité, qui était le grand argument qu'ils avançaient en contrepartie de la privation des libertés. En outre, on a les cours du pétrole, hein, qui sont aujourd'hui de l'ordre de $30. Il faut savoir que quand la contre-révolution fait rage en 2011-2012, ils sont au-delà de $100. Ça veut dire qu'il y a des ressources beaucoup plus limitées pour tous ces appareils de répression. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a maintenant une génération arabe, vous l'avez dit, qui n'a jamais été aussi bien éduquée, aussi bien formée, aussi critique, qui a maintenant 5 ans, pour le meilleur et pour le pire, de bagages révolutionnaires, qui sait à quoi s'attendre, qui sait comment préparer les épreuves de demain. Et je crois que nous allons vers de nouvelles surprises, que j'espère positives. Mais de toute façon, n'ayons aucune illusion, le statu quo est absolument intenable et on ne peut pas espérer le restaurer au nom d'une stabilité factice qui ne serait que la paix des cimetières.
Alors, votre avis sur l'état de la menace Daesh. On a eu Olivier Roy sur nos antennes il y a peu, qui était aussi de passage à Bruxelles comme vous, qui estimait que Daesh était en train de perdre, que l'expansion territoriale était limitée, même en train de se réduire. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a un crépuscule de Daesh qui est en train de poindre?
Non, Daesh n'a jamais été aussi puissant. Et ce qui est absolument tragique, c'est que malgré les attentats qui ont ensanglanté Paris en novembre dernier, Daesh est partout, toujours en initiative. Nous nous berçons d'illusions, nous croyons que des bombardements aériens de la coalition peuvent permettre de faire face à cette menace. Si les bombardements permettaient de gagner une guerre, l'Amérique aurait triomphé au Vietnam. Aujourd'hui, ils sont en possibilité de nous frapper avant que nous les frappions. C'est tout simplement insupportable pour les démocraties que nous sommes. Et nous avons un énorme problème. Ce problème, il a un nom, il a un visage, il s'appelle Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, ce monsieur en Syrie bombarde très exactement les forces dont nous avons besoin au sol pour lutter contre Daesh. Tant que nous n'aurons pas surmonté cet obstacle, eh bien nous sommes à la menace d'un attentat, je le regrette, d'ampleur.
Donc vous pensez que la campagne menée par les Russes en Syrie depuis plusieurs mois maintenant, elle fait pire que mieux? Elle fait partie du problème plus que de la solution?
Ah ben évidemment. On pense que seuls 10% des frappes russes visent Daesh, ce qui veut dire qu'elle se concentre sur l'opposition contre Assad, qui, je le répète, est la seule force sur le terrain, parce qu'elle est arabe et sunnite.
Oui, même si elle est aussi faite de groupes djihadistes concurrents à Daesh, Jean-Pierre Filiu.
Pas majoritairement. Et de toute façon, ces groupes-là, eux, ne sont pas engagés dans ce qui pourrait être une offensive contre Raqqa, qui est quand même la capitale, entre guillemets, en Syrie de Daesh. C'est là où Daesh a été proclamé en avril 2013. C'est là où une partie de la population a été expulsée pour faire la place aux djihadistes étrangers, entre autres européens. C'est comme ça qu'ils sont attirés par des maisons, par des voitures, par différentes prébendes. Il n'y a pas que la propagande djihadiste, il y a des motivations extrêmement concrètes qui sont plus de l'ordre du mafieux ou du délinquant. Et donc, il faut frapper à la tête. Ça ne veut pas dire que ça réglera le problème de Daesh, mais au moins, ça voudra dire qu'on aura renversé la tendance et que les djihadistes ne seront plus en initiative et que nous aurons, et c'est urgent, repris cette initiative.
Alors, il nous reste 30 secondes, Jean-Pierre Filliu, pour parler sur la Syrie qui se sont ouverts à Genève sous l'égide de l'ONU. Est-ce qu'il y a une chance pour vous que ça aboutisse ?
Il faut immédiatement l'arrêt des bombardements indiscriminés de la Russie et du régime Assad contre les populations civiles. Au mois de janvier, ils ont fait plus de 2000 morts, dont la moitié directement attribuable à Poutine.
Face aux révolutions arabes, nous n'avons pas eu le minimum de l'empathie que nous avons eu lors de la chute du mur de Berlin. Les régimes arabes actuels sont condamnés, ils ne parviennent plus à fournir la sécurité malgré les moyens féroces utilisés. Nous allons vers de nouvelles surprises, j'espère bonnes, notamment grâce à cette jeunesse bien formée qui a 5 ans de bagage révolutionnaire. Le statu quo est intenable, un statu quo factice qui serait une paix des cimetières. Déclaration de Jean-Pierre Filliu à l'instant dans Matin Première. Tout de suite, c'est votre café serré.